Lors de notre deuxième visite au bungalows Candlewood, Sadie s'est déclarée prête à me parler de Johnny Clayton. « Mais éteins la lumière, veux-tu ?» J'ai fait comme elle me le demandait. Elle a fumé 3 cigarettes tout en racontant. Elle a fini en pleurs, moins au souvenir de la souffrance endurée que du fait de sa terrible gêne. Je pense que pour une majorité d'entre nous, il est plus facile d'admettre avoir causé du tort à autrui que d'avoir été stupide. Non qu'elle l'eût été. Il y a un océan de différence entre stupidité et naïveté. Et à l'instar de la plupart des jeunes filles de bonne famille de la classe moyenne américaine qui atteignirent leur maturité dans les années 40 et 50, Sadie était totalement ignorante, ou presque, des choses du sexe. Elle m'a confié qu'elle n'avait jamais vraiment regardé un pénis en face avant le mien. Elle avait entrevu celui de Johnny, mais les rares fois où il l'avait surprise à le faire, il lui avait brutalement saisi le visage d'une main de fer pour le lui détourner de force. « Il me faisait mal, » dit-elle. « Tu comprends ?» John Clayton venait d'une vieille famille fondamentaliste protestante, certainement pas des dégénérés. Il était charmant, attentionné et raisonnablement séduisant. Certes, il n'avait pas le sens de l'humour le plus développé qui soit, il n'en avait quasiment aucun, pour être plus exact, mais il semblait adorer Sadie. Et les parents de Sadie l'adoraient. Claire Dunhill, tout particulièrement, était folle de lui. Et, pour parfaire le tout, il était plus grand qu'elle, même en talons hauts. Après des années passées à être l'échalas de service dans les plaisanteries de groupe, la chose avait son importance. Le seul fait troublant avant notre mariage, c'était son besoin compulsif d'ordre et de propreté, m'expliqua Sadie. Tous ses livres étaient rangés par ordre alphabétique, et il se mettait très en colère si quelqu'un les dérangeait. Qu'on en retire un seul d'une étagère, et il devenait nerveux. Oh, je le sentais, sa tension était palpable. Il se rasait 3 fois par jour, se lavait tout le temps les mains. Si quelqu'un lui serrait la main, il s'excusait dès qu'il le pouvait pour filer se les laver aux toilettes. « Il coordonnait la couleur de ses vêtements, lui dis-je. Aussi bien sur lui que dans l'armoire, et malheur à toi si tu les dérangeais. Avait-il réorganisé les provisions par ordre alphabétique? Ou bien lui arrivait-il de se lever la nuit pour vérifier que les brûleurs de la gazinière étaient bien éteints et les portes bien cadenassées? » Elle se tourna vers moi, les yeux blancs d'étonnement dans l'obscurité. Le lit émit un grincement amical. Une rafale de vent souffla, un carreau branlant trépida. « Comment peux-tu savoir ça ?»« C'est un syndrome. Trouble obsessionnel compulsif. TOC, en abrégé. »« Howard... » J'ai failli dire « Howard Hughes en souffre. » Mais peut-être n'était-ce pas encore vrai. Et même si c'était vrai, les gens l'ignoraient sans doute. Un vieil ami à moi en souffrait, Howard Temple. Peu importe. A-t-il été violent avec toi, Sadie? Non, pas vraiment. Il ne m'a jamais frappé. Il m'a giflé une fois, c'est tout. Mais on peut infliger de la violence par d'autres moyens, tu sais. Oui, je sais. Je ne pouvais en parler à personne. Surtout pas à ma mère. Tu sais ce qu'elle m'a dit le jour de mon mariage? Que si je disais la moitié d'une prière avant et l'autre moitié pendant, tout se passerait bien. Pendant, c'était le plus près qu'elle pouvait s'approcher du mot rapport. J'essayais d'en parler à mon amie Ruthie, mais une fois seulement. C'était après les cours, elle m'aidait à ranger la bibliothèque. Elle m'a sorti... Ce qui se passe derrière la porte de la chambre à coucher ne me concerne pas. Alors je ne lui ai rien dit, parce que, à la vérité, je n'avais pas tellement envie d'en parler. J'avais trop honte. Et là, c'est sorti d'un coup. Une partie de ces mots était brouillée par les larmes, mais j'ai capté l'essentiel. Certains soirs, une fois ou deux par semaine peut-être, il lui disait qu'il avait besoin de la sortir. Ils étaient au lit, couchés l'un à côté de l'autre, elle en chemise de nuit. Il avait exigé qu'elle n'emporte que des opaques, lui en caleçon court. c'était le plus nu qu'elle l'eût jamais vu. Il abaissait le drap jusqu'à sa taille et elle voyait son érection le tendre comme une toile de tente. Une fois, il a baissé les yeux vers sa petite tante. Je ne me souviens que de cette fois-là. Et tu sais ce qu'il a dit ? Non. Ce qu'on peut être dégoûtant. Ensuite, il me disait « Vas-y, fais-moi ça en vitesse, que je puisse dormir un peu. » Elle glissait alors la main sous le drap pour le masturber. Ça ne prenait jamais très longtemps, parfois quelques secondes à peine. Quelques rares fois, il lui avait touché la poitrine pendant qu'elle remplissait cette fonction, mais la plupart du temps, il gardait les mains jointes en haut du buste. Quand c'était terminé, il allait se laver à la salle de bain et revenait vêtu d'un pyjama. Il en possédait 7, tous bleus. Puis c'était son tour à elle d'aller se laver les mains. Il exigeait qu'elle y passe au moins 3 minutes et qu'elle utilise de l'eau si chaude que ça lui rougissait la peau. Quand elle revenait se coucher, elle lui tendait ses paumes à renifler. Si l'odeur du savon Lifebuoy n'était pas assez forte pour le convaincre, elle devait retourner se les laver. Et quand je revenais, il avait mis le balai. Il le posait au-dessus du drap en été, au-dessus des couvertures en hiver, pile au centre du lit pour les séparer, lui d'un côté, elle de l'autre. Si je remuais pendant la nuit et le déplaçais par inadvertance, il se réveillait, même s'il dormait à point fermé. Et là, il me repoussait de mon côté, brutalement. Il appelait ça « transgresser le balai ». La fois où il l'avait giflé, c'était parce qu'elle avait osé demander comment ils allaient avoir des enfants s'il ne la lui mettait jamais dedans. Il était furieux. C'est pour ça qu'il m'a giflé. Il s'en est excusé plus tard, mais sur le moment... Tu sais ce qu'il a dit ? Tu crois peut-être que je vais la mettre dans ton trou de femme plein de microbes pour avoir des enfants dans ce monde immonde ? Tout ça va exploser de toute façon. Il suffit de lire le journal pour le voir venir et les radiations vont tous nous tuer. Nous allons mourir avec des plaies sur tout le corps et en crachant nos poumons. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Bon Dieu, c'est dit. Je comprends que tu l'aies quitté. Après 4 ans de gâchés. Il m'a fallu tout ce temps pour me convaincre que je méritais mieux dans la vie que classer les chaussettes de mon mari par couleur dans le tiroir, le branler 2 fois par semaine et dormir avec un manche à balai, merde. C'était ça le plus humiliant. Et je savais que je pourrais jamais en parler à personne parce que c'était carrément désopilant. Moi, je ne trouvais pas ça désopilant. Pour moi, ça se situait dans la 3e dimension, quelque part entre la névrose grave et la psychose pure et simple. Je m'étais aussi fait la réflexion que son histoire ressemblait à la légende parfaite des années 50. Il était facile d'imaginer Rock Hudson et Doris Day dormant chacun de son côté du manche à balai. Si Rock n'avait pas été gay. Et il n'est pas venu te rechercher ? Non. J'ai postulé dans une dizaine de lycées en faisant adresser la réponse à une boîte postale. Je me sentais comme une femme adultère qui fait les choses en douce. C'est d'ailleurs ainsi que mon père et ma mère m'ont traité quand ils l'ont su. Mon père est un peu revenu sur ses positions. Je pense qu'il soupçonne quel enfer je vivais, même si bien sûr il ne tient pas à connaître les détails. Mais ma mère ? Non, pas elle. Elle est furieuse contre moi. Elle a dû changer d'église et quitter son club de couture, parce qu'elle ne pouvait plus y aller la tête haute à ce qu'elle m'a dit. Cette attitude me semblait aussi cruelle et folle que l'histoire du manche à balai, mais je me suis abstenu de le dire. Bien plus que les parents sudistes conventionnels de Sadie, c'était un autre aspect de la question qui m'intéressait. Clayton n'est pas allé les trouver pour leur dire que tu étais parti ? C'est ça que je dois comprendre ? Il n'est pas allé les voir. Non. Oh, ma mère a compris, bien sûr. Elle a forcé son accent du sud qu'elle avait plutôt discret pour l'imiter. J'avais fait tellement honte à ce pauvre garçon. qu'il voulait en parler à personne. » Elle a repris sa voix normale. « Et je ne dis pas ça pour me moquer. Elle sait ce que c'est que la honte. Et elle sait ce que c'est que la loi du silence. Sur ces deux points, Johnny et ma mère sont en parfaite harmonie. C'est elle qu'il aurait dû épouser. » Elle lâcha un rire juste un tout petit peu hystérique. « Ma mère aurait sûrement adoré ça, le vieux coup du manche à balai. » « Tu n'as jamais reçu aucun mot de lui ? Même pas une carte postale disant « Hey, Sally, si nous mettions un terme à cette situation pour pouvoir continuer chacun notre vie ?» Et comment l'aurait-il fait ? Il ne sait pas où je suis et je suis sûr qu'il s'en contrefiche. Souhaites-tu obtenir quelque chose de lui ? Parce que je suis persuadé qu'un bon avocat... » Elle m'a embrassé. La seule chose que je souhaite obtenir se trouve ici avec moi, dans ce lit. Du pied, j'ai repoussé les draps jusqu'à nos chevilles. Regarde-moi, Sally. Sans contrepartie. Elle a regardé, puis elle a touché. Je me suis vite assoupi. Ce n'était pas un sommeil profond. J'entendais toujours le vent souffler et la vitre trembler, mais je m'y suis suffisamment enfoncé pour entrer dans un rêve. Sadie et moi nous trouvions dans une maison vide. Nous étions nus. Quelque chose bougeait à l'étage au-dessus. Les bruits, sourds et désagréables, auraient pu ressembler à des bruits de pas. Mais on aurait dit qu'ils étaient causés par un trop grand nombre de pieds. Je n'éprouvais pas de culpabilité à l'idée qu'on nous surprenne nus. C'était de la peur que j'éprouvais. Sur le plâtre écaillé d'un mur, quelqu'un avait écrit au charbon « Je vais bientôt assassiner le président ». Et au-dessous, quelqu'un avait ajouté « Grouille, il est pourri de maladie ». Les lettres avaient été tracées au rouge à lèvres foncé. À moins que ce ne fût du sang. Clomp, clop, clomp. Au-dessus de nos têtes. « Je crois que c'est Frank Dunning !» chuchotai-je à Sadie. J'agrippais son bras. Il était très froid. On aurait dit le bras d'une femme morte. Frappée à mort avec un marteau, peut-être. Sadie secoua la tête. Elle regardait le plafond. Sa bouche tremblait. Plomb, plop, plomb. De la poussière de plâtre dégringole. « Alors ?» « C'est John Clayton !» chuchotai-je. « Non !» me dit-elle. « Je crois que c'est le porteur de cartes jaunes. Il a amené le gym là !» Au-dessus de nous, les chocs sourds cessent brusquement. Elle s'empara de mon bras et se mit à le secouer. Ses yeux lui mangeaient le visage. « C'est lui ! C'est le gym là ! Il nous a entendus ! Le gym là sait que nous sommes là !» « Réveille-toi, George ! Réveille-toi !» J'ai ouvert les yeux. Elle était appuyée sur un coude à côté de moi. Son visage était une tache floue et pâle dans l'obscurité.
« Quoi ? Quelle heure il est ? On doit s'en aller ?»
Mais il faisait encore nuit et le vent soufflait toujours par rafale.
« Non, il n'est pas encore minuit, tu as fait un mauvais rêve !»
Elle a lâché un petit rire nerveux.
« Peut-être un rêve de football, parce que tu répétais « Jim là, Jim là !»«
C'est vrai ?» Je me suis redressé. J'ai entendu craquer une allumette et son visage s'est momentanément illuminé lorsqu'elle a embrasé sa cigarette.
« Oui, c'est vrai. T'as dit plein de trucs. »
« Aïe ! Ça, c'était risqué.
Quel genre ?»« J'ai quasiment rien compris. » Sauf un truc que tu as prononcé très clairement. « Derry, c'est Dallas », tu as dit. Et puis tu l'as dit dans l'autre sens. « Dallas, c'est Derry ». De quoi parlais-tu ? Tu te souviens ?
Non. Mais il est difficile de mentir de façon convaincante quand on sort à peine du sommeil. Même un léger demi-sommeil. Et j'ai vu que je ne l'avais pas convaincu. Avant que son doute ait pu se muer en soupçon, quelqu'un a frappé à la porte. À minuit moins le quart,
On frappait à la porte. Nous nous sommes regardés. On a encore frappé. C'est le gym là. Cette pensée m'est venue, très claire, d'une évidence parfaite. Sadie a écrasé sa cigarette dans le cendrier, ramassé le drap autour d'elle, et sans un mot a couru se réfugier dans la salle de bain. La porte s'est refermée derrière elle.
« Qui est là ? »
ai-je demandé.
« C'est Monsieur Yoriti, monsieur ! Bad Yoriti !»
L'un des deux retraités gay. Je me suis levé et j'ai enfilé mon pantalon. « Qu'y a-t-il, Monsieur Yoriti ? » ?»«
J'ai un message pour vous, Monsieur Amberson. La dame a dit que c'était urgent. »
J'ai ouvert la porte. Un petit homme en peignoir élimé se tenait là, échevelé par le sommeil. Il avait un papier à la main.
« Quelle dame ? Hélène de Corti !»
Je l'ai remercié pour sa peine et j'ai refermé la porte. J'ai déplié le papier et lu le message. Sadie est sortie de la salle de bain, le drap toujours serré autour d'elle. Elle me regardait avec de grands yeux effrayés.
« Qu'est-il arrivé ?»«
Un accident, » j'ai dit. « Vince Knowles a fait un tonneau avec sa bétaillère à la sortie de la ville. » Mike Coslow et Bobby Jill étaient avec lui. Mike a été éjecté, il a un bras cassé. Bobby Jill est blessé au visage. Mais à part ça, elle y dit qu'elle va bien.
Et Vince ?
J'ai pensé à ce que disaient les gens à propos de Vince. Qu'il roulait à tombeau ouvert, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Il n'en aurait plus désormais. Il est mort, Sadie. Elle a ouvert la bouche de stupeur.
« C'est pas possible ! Il a que 18 ans !»«
Je sais. » Le drap est tombé de ses mains sans force et a formé une boule à ses pieds. Elle a pris son visage dans ses mains.